journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'appel à l'aide, appel au don du secours populaire au chevet de populations considérablement affaiblies par le premier confinement. Interdite en mars, autorisée en octobre, les visites en EHPAD, bienvenue pour ne pas dire vital, reportage dans les Yvelines d'Étienne Monin. Également consacré à la crise sanitaire, la bulle écho de ce samedi qui pose la question de l'adaptation de notre modèle social aux travailleurs des plateformes. Et puis les libraires, commerçants non essentiels, le plaidoyer pour une profession en pleine fronde contre le gouvernement de l'auteur de BD Johann Sfar. Enfin, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, nos envoyés spéciaux Gilles Gallinaro et Omar Waman se sont rendus dans deux quartiers d'Abidjan. Friable est la digue qui éloigne les familles en difficulté de la grande pauvreté. C'est cette digue abîmée par le premier confinement que tentent de consolider les organisations et structures humanitaires depuis le mois de mars. Le reconfinement les inquiète au plus haut point, à telle enseigne que l'une d'entre elles, le Secours Populaire, a lancé dès hier soir un massif appel à l'aide. Bonjour Adrien Palluel.
Bonjour.
Adrien, à quel défi l'association est-elle confrontée ?
Eh bien, à l'image du confinement du printemps, les équipes du Secours Populaires s'attendent surtout à voir arriver une population qui d'habitude ne fait pas appel à l'association, explique Ouria Tareb, secrétaire nationale en charge de la solidarité au secours populaire.
On a vu arriver un nouveau public, des jeunes, des étudiants, des jeunes actifs qui jusqu'à là étaient protégés par un emploi assez stable et se sont retrouvés soit au chômage parce qu'ils étaient salariés intérimaires, soit ils se sont retrouvés en télétravail, soit ils se sont retrouvés en chômage partiel notamment, avec une baisse de revenus. Donc c'est vrai que pour ce public-là qui était assez éloigné, on va dire, de la précarité ou qui était un peu sur le fil du rasoir, qui arrivait à gérer, on va dire, leur budget comme ils pouvaient, on les a retrouvés en permanence d'accueil. C'est une détresse qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est des difficultés que ces personnes ont rencontrées qui aussi n'étaient pas forcément connues par nos bénévoles.
L'association n'a pas encore vu arriver la deuxième vague, mais elle l'attend pour les jours à venir. Avec l'expérience du premier confinement, la structure est a priori mieux préparée. Elle a mis en place des équipes tournantes pour rester constamment ouvertes et pourtant, les moyens restent limités.
Honnêtement, on n'a pas énormément de moyens parce que jusqu'à présent, on a dû faire avec nos fonds propres, avec un soutien de l'État, mais pour nous, il n'est pas assez important. En tout cas, il n'est pas assez important vu l'ampleur de cette précarité, en fait, parce que je crois qu'on est tous surpris. Aujourd'hui, on fait grâce aussi au soutien de nombreux donateurs parce que dans cette crise sanitaire, on a aussi eu la chance d'avoir un vrai élan de solidarité, de générosité. On a eu énormément de dons et ça, heureusement qu'on l'a eu parce que grâce à ça, on a pu faire face jusqu'à présent.
C'est un point positif en effet. Ouria Tareb se réjouit aussi d'une augmentation importante du nombre de nouveaux bénévoles depuis le premier confinement.
Merci à vous Adrien Palluet. Dès le mois de septembre dernier, les relevés dans les EHPAD ont rougeoyé. Net rebond de l'épidémie dans ces établissements. Dès la mi-août à vrai dire, les autorités ont hésité sur la conduite à tenir jusqu'à ne pas priver des personnes âgées de la visite de leurs proches avec quantité de précautions à prendre. C'est un reportage d'Étienne Monin.
Alors, je vais prendre votre température.
Dans la maison de retraite des Saules, près de Paris, à droite de l'entrée, Sylvie attend patiemment Juliette, sa maman de 86 ans, pour une visite, avec un sentiment de soulagement, cette fois, celui de pouvoir maintenir le lien malgré le confinement.
Pour nous, ça a été violent de savoir qu'on n'allait pas du tout pouvoir avoir de la voir quoi, pendant ce temps de 2 mois. Voilà. Et du coup, on était heureux d'entendre que du coup, les familles auraient accès du coup, à leurs proches dans les EHPAD.
Les visites sont assez encadrées, elles se font dans une pièce de 140 mètres carrés sous surveillance pour maintenir la distance, explique la directrice Guylaine Valère.
Donc les familles ne touchent pas, je n'embrasse pas, je ne te fais pas de bisous. C'est vraiment, je respecte la distance.
La politique de cette EHPAD repose aussi sur l'arrivée des tests antigéniques aux résultats rapides. Il y en a déjà suffisamment dans cet établissement pour espérer ne plus avancer à l'aveugle, estime l'infirmière coordinatrice Cindy Antille.
Si au cas où on a un professionnel qui a été en contact, par exemple réunion familiale, donc du coup on peut faire le test parce que la personne nous a dit « oui, j'étais en réunion de famille, je pense qu'il y a eu un cas contact, donc là on peut faire ».
Aujourd'hui, l'établissement est divisé en secteurs, 14 chambres sont réservées dans une des ailes pour les éventuels malades.
Ce reconfinement va de pair avec la fermeture des commerces dits non essentiels et les commerces de proximité en font partie. Leurs représentants ne décolèrent pas. Des maires de communes moyennes ont d'ailleurs pris des arrêtés autorisant l'ouverture de commerces non alimentaires. Intéressons-nous à un autre mécontentement qui gagne en intensité, celui des libraires. Ils ont dès hier reçu le soutien de nombreuses personnalités, auteurs et intellectuels. Le gouvernement a demandé à la grande distribution de fermer provisoirement ses rayons culture. Isabelle Souquet a sollicité l'auteur de BD et cinéaste Johan Sfar. Entretien.
Personne n'aimerait être à la place du gouvernement. On sait qu'ils ont des choix crève-cœur à faire en permanence. Mais là, on est en train de tuer le secteur du livre et on est en train de priver les gens de ce qui leur permet de tenir pendant le confinement. Donc s'entendre dire que les livres ne sont pas un produit essentiel, c'est ahurissant. Parce que le public dit, mais enfin, vous vous plaignez pour rien, il y a le click and collect, on peut commander sur Internet et aller voir son libraire. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 20% des libraires ne sont pas informatisés et ne sont pas équipés pour faire ça. Et lors du premier confinement, on a vu que le click and collect ne résultait qu'en des ventes marginales pour les libraires. Alors évidemment, il faut le faire, mais c'est pas grand-chose. Il faut voir aussi que c'est un secteur qui fait tout son chiffre entre le mois de novembre et le mois de décembre, et c'est un secteur qui a été très durement éprouvé par le premier confinement. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais même les gros éditeurs sont extrêmement fragilisés par d'énormes emprunts. Les auteurs ne signent plus de contrats parce qu'il n'y a plus de commandes de livres, et les libraires sont exsangues. Si on fait rien, on va se réveiller à la sortie du confinement avec beaucoup moins de libraires indépendants, beaucoup moins d'éditeurs, et beaucoup moins d'auteurs. Voilà. Donc on peut pas d'un côté nous dire qu'on défend notre civilisation contre les séparatismes culturels, le ceci et le cela, et de l'autre côté, faire du livre un produit accessoire. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'est tous battus pour supplier qu'on ouvre les librairies indépendantes et les librairies en général, d'autant qu'elles sont très respectueuses des règles de distanciation, et la réponse imbécile de l'administration, ça a été de fermer aussi les rayons culture de toutes les grandes surfaces. Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes surfaces, c'est qu'on peut vendre des coques de portable, de la moquette, mais en revanche le rayon livre est ou vidé de ses ouvrages ou recouvert de plastique noir pour pas qu'on puisse y accéder. C'est très joli de dire qu'on lutte contre la concurrence comme ça, mais il faut imaginer les gens qui vivent loin de tout, qui ont juste une grande surface et qui maintenant peuvent même plus acheter. Donc voilà, ils sont en train de massacrer un secteur, et c'est pas seulement un secteur économique, c'est tout un pan de la façon dont vivent les Français, c'est-à-dire un des pays où il y a le plus de librairies. Quand j'entends toutes les rodomontades face au terrorisme et face au massacre, le plus grand rempart face au terrorisme, c'est la culture. Passons sur le fait que notre gouvernement vient de faire un cadeau colossal à Amazon, puisque c'est l'endroit le plus commode aujourd'hui pour acheter des livres. C'est une réponse administrative face à un secteur qui est exsangue et qui ne sait plus comment dire qu'il ne survivra pas au prochain confinement.
L'auteur de BD, Johan Sfar, avec Isabelle Souquet. La pandémie en Europe avec la Slovaquie qui lance ce samedi un programme de dépistage au sein de l'ensemble de la population, une première mondiale. Et puis le gouvernement britannique qui s'apprêterait à annoncer un reconfinement jusqu'au 1er décembre, renonçant ainsi à une approche locale. Au moins 27 morts suite au séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter qui s'est produit hier en mer Égée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie et près de l'île grecque de Samos, bilan provisoire. 7,5 millions d'Ivoiriens appelés aux urnes ce samedi pour une élection présidentielle qui a plongé le pays dans un marasme ponctué de violences. Au président sortant, Alassane Ouattara, dont la candidature est controversée, s'opposent trois personnalités, l'ex-président Henri Conan Bédier, l'ancien premier ministre Pascal Fille Nguessan, tous deux ont appelé au boycott du scrutin, et Kouadio Conan Bertin. Reportage en ce jour de vote à Abidjan d'Omar Waman.
Ce matin, il y avait beaucoup de monde devant le collège Anador de la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan.
Voilà mon cas d'électeur.
Une foule compacte.
Je vote Anador.
Sûr de son choix.
Le président Alassane Dramane Ouattara.
Comme Marianne, une commerçante.
Parce que dans tous ces mandats qu'il a fait, il n'y a pas eu de problème, rien. On dort tranquille, on se réveille tranquille, il n'y a pas de problème, on est à l'aise. La paix.
Dans ce bastion, fidèle au président sortant, deux mandats d'Alassane Ouattara ne suffisent pas, estime Idriss, un mécanicien.
S'il peut faire encore 20 ans, encore même, c'est bon. Il n'a qu'à mourir au pouvoir.
Mais c'est une toute autre ambiance qui règne à Yopougon.
Faites très attention parce que le quartier est très dangereux. C'est un quartier pour Gbagbo. Donc les gens souvent empêchent des gens de voter à tout moment. Ça peut dégénérer, quoi.
Cet agent de sécurité semble bien seul devant ce bureau de vote installé dans une école maternelle.
Même, je vous le dis, présentement, j'ai peur.
Fatou, professeur de français à Yopougon, a bravé les intimidations et les menaces de l'opposition.
Mais je suis venu voter. Vous avez vu l'accoutrement, je suis déjà en pantalon. Ça dit, au cas où, j'ai fui.
Des véhicules de police patrouillent dans ce quartier devant des habitants résignés. Shérif a suivi le mot d'ordre de l'opposition.
Je ne vote pas parce que ma constitution a été violée. On ne doit plus laisser un président africain faire troisième mandat. Il faut arrêter ça. S'il dit qu'il a gagné les élections samedi, nous, on ne le reconnaîtra pas.
Une position très largement partagée ici, qui augure des lendemains d'élections difficiles.
Omar Waman et Gilles Gallinaro à Abidjan, à 3 jours de l'élection présidentielle américaine, escale dans le Wisconsin où étaient hier Donald Trump et Joe Biden. C'est l'un des États qui a ouvert la porte de la Maison Blanche à Donald Trump en 2016 et à Kenosha, ville marquée par des émeutes cet été après qu'un policier blanc a tiré 7 fois sur un homme noir, Jacob Blake. La question des violences et du racisme prédomine. Rosalie Lafarge a croisé les derniers électeurs qui ont choisi de voter de manière anticipée à Kenosha. Hier.
Les carcasses de voitures brûlées témoignent à plusieurs coins de rue de la violence des émeutes de l'été à Kenosha. Et si le calme est revenu ces dernières semaines pour Rod, qui a fait la queue pour glisser son bulletin dans l'urne, c'est en partie ce qui pousse les habitants à se mobiliser.
You know, what happened here happened in
Vous savez ce qui est arrivé ici, ça arrive partout dans le pays, explique cet homme de 51 ans. Et du coup, les gens veulent s'assurer que cette fois, leur voix sera entendue. C'est important, aujourd'hui, plus que jamais. Mais la population est divisée. Cassidy, 18 ans, choisit le candidat démocrate. J'ai voté Joe Biden parce que je veux voir notre pays changer, souligne la jeune femme, pour qui l'ancien vice-président, contrairement à Donald Trump, se soucie de chacun des Américains, en particulier des Noirs. Sauf que dans le camp républicain, on insiste sur un point. Pour ce trentenaire masqué venu voter Trump, les émeutes engendrées par l'affaire Jacob Blake prouvent qu'il faut plus de lois et d'ordre dans ce pays. Et pour ça, il fait confiance au parti de l'actuel président. Un discours balayé par Michael. Du haut de ses 70 ans, il ne comprend pas comment on peut encore choisir cet horrible personnage. Et cet écrivain en est persuadé. Si le comté de Kenosha a accordé sa confiance à Donald Trump en 2016, ça n'arrivera pas cette fois. Il va, prédit-il sûr de lui, se faire botter les fesses.
Voilà, reportage de Rosalie Lafarge à Kenosha.
La bulle économique. Catherine Pétillon.
Nous avons ouvert ce journal sur les conséquences de la crise sanitaire. La bulle éco de ce samedi pose la question de l'adaptation de notre modèle social aux travailleurs des plateformes.
Cette fois non plus, ils ne sont pas confinés. À vélo, en scooter, en trottinette, en VTC, les chauffeurs et livreurs travaillent. Ces derniers ont même vocation à être encore plus sollicités, si l'on en croit l'incitation d'Emmanuel Macron à soutenir les entreprises à travers les commandes à distance ou la livraison à domicile. Pourtant, ces travailleurs des plateformes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et désormais économique. Elle a mis en lumière la faiblesse des rémunérations, d'autant plus visible que les conditions de travail sont difficiles, ainsi que l'absence de garantie en cas de perte d'activité, comme pour les nombreux chauffeurs de VTC qui ont perdu des clients faute de déplacements autorisés. La crise pose aussi de manière accrue les questions de sécurité et de santé au travail, c'est-à-dire l'équipement ou non en matériel de protection, les gestes barrières, etc. La question, c'est qui est responsable ? Car les travailleurs des plateformes ne sont pas salariés, ils ne sont pas non plus indépendants, puisqu'ils ne peuvent pas librement choisir leurs clients, établir leurs prix, etc. C'est bien le cœur de la bataille judiciaire depuis des années pour la requalification des travailleurs des plateformes en salariés. Elle s'intensifie un peu partout dans le monde, notamment autour du cas Uber. En Californie, Uber et Lyft refusent d'appliquer une loi qui requalifie en salarié leurs centaines de milliers de chauffeurs. Elles organisent un référendum mercredi 3 novembre, jour de l'élection présidentielle. Les électeurs devront se prononcer sur le compromis qu'elles proposent afin de préserver leur modèle économique, incluant notamment un revenu minimum. En France aussi, des centaines de dossiers de chauffeurs VTC demandent la requalification de leur contrat de partenariat en contrat de travail. Ils sont devant les conseils des prud'hommes. Ils espèrent bénéficier d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 qui a requalifié le statut d'un chauffeur Uber indépendant en salarié. Globalement, toute la jurisprudence va dans ce sens. L'exécutif, lui, ne va pas sur ce terrain. Il essaye de clarifier les relations entre travailleurs et plateformes tout en préservant le modèle d'affaires de ces dernières. Ce qui, en pratique, veut dire limiter les requalifications car elles obligeraient les plateformes à revoir leur modèle économique de fond en comble. Et c'est à Jean-Yves Frouin, l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, que le gouvernement a demandé de se pencher sur sur la question via une mission qu'il lui a confiée en janvier dernier. Charge à lui de trouver une ligne de crête entre les statuts de salarié et d'indépendant pour créer un régime de négociation sociale avec les plateformes. À l'origine, cette mission devait uniquement imaginer des pistes pour faire émerger une représentation de ces travailleurs. Son champ a finalement été élargi à tous les sujets sur la table, gestion du temps de travail, rémunération, protection sociale ou encore modalités de rupture d'un contrat. Ces travaux ont pris du retard avec le premier confinement, ils devaient être rendus fin octobre, ils ont finalement été à nouveau repoussés. Nouveau signe, s'il en fallait, que l'idée d'améliorer le statut de ces travailleurs peine à se concrétiser. L'exécutif en parle pourtant depuis 2017, pour finalement repousser tout renforcement des droits sociaux des travailleurs à un texte spécifique et un débat parlementaire initialement prévu fin 2020, même si les chances qu'ils trouvent une place s'amenuisent. La seule chose qu'a faite le gouvernement pour l'heure, c'est de signer un retour des chartes de responsabilité sociale. La semaine dernière, il a publié un décret d'application de la loi LOM précisant que les plateformes peuvent se doter d'une charte. Elle sera déposée auprès de la Direction générale du travail au ministère qui pourra l'homologuer si elle juge suffisante la consultation préalable des travailleurs. Voilà qui ne fait pas vraiment avancer la question de fond, à savoir comment répondre à l'évolution du travail et adapter notre modèle social aux travailleurs des plateformes.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Une perturbation s'étend de la baie de Somme au golfe du Morbihan, des précipitations des Ardennes aux Charentes, température douce pour la saison. Ce journal était préparé avec M. Le Chili à la technique, YouTube Diego Aclopes.